Hello, on est le 25 mars 2026 et bah il y a une news quand même que j'ai envie de commenter, alors qui est complètement hors du scope de ce dont je parle d'habitude sur l'IA, mais quand même on peut pas ne pas parler de la fin de Sora. Donc Sora qui est l'application qui avait été faite par OpenAI pour générer des vidéos. En fait, l'idée c'était de la génération de vidéos, mais aussi un réseau social qui allait avec, où on pouvait un petit peu à la TikTok, bah, du coup, voir toutes les vidéos scrollées par les gens. Et bon, moi, je veux dire, je suis pas du tout client. En fait, il y a un côté, bon, là, le sujet de la génération de vidéos, de musique, tout ça m'intéresse pas trop d'un point de vue pro et de ce que je suis. Et à titre personnel, en plus, je trouve ça assez inquiétant. Et à la limite qu'il y ait des usages un peu créatifs et intéressants de la vidéo, je peux l'entendre. Ça, je veux dire, il y a eu des exemples de gens qui font des choses franchement intéressantes, qui n'auraient pas les moyens de faire autrement, mais la plupart des choses, quand même 90-95%, peut-être même plus, c'est vraiment merdique, c'est vraiment du high slope. Et surtout le fait qu'on en fasse un réseau social derrière, c'est-à-dire que les gens se disent « je vais aller sur Sora pour regarder des vidéos générées par de l'IA », franchement, c'est un peu catastrophique à mon sens. Voilà. Alors, que ça vienne de Meta qui propose ce genre de choses, bon, pourquoi pas. Maintenant, on n'est plus étonné de rien de chez Meta. Mais bon, OpenAI, quand même, il y avait un peu un sentiment d'égarement et d'éparpillement qui était clair. Et il y a un vrai recentrage. Ce recentrage, de toute façon, il est très simple à expliquer. C'est-à-dire qu'on avait un peu ce clivage, déjà, qu'on voyait bien depuis 2 ans. OpenAI, c'est très grand public, B2C, comme on dit, voilà, pour les consommateurs. Et puis, Anthropic, de l'autre côté, c'est très professionnel, plus B2B, comme on pourrait dire un peu pour qualifier. Mais dans ce clivage, ce qui est important surtout pour moi, c'est de se dire qu'Anthropic, ils ont eu une ligne directrice très très forte, c'est-à-dire de ne pas s'égarer, de faire des outils pour les pros. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez de Claude, hein, vous pouvez lui demander d'être votre compagnon, vous pouvez lui demander de faire votre thérapie, etc. Mais ce n'est pas forcément eux l'usage qu'ils ont en tête. Et notamment, bon, Anthropic est très bon sur le code et donc la plupart de leurs revenus reviennent de la génération de code, leurs usages principaux. Et donc, on va classer plutôt dans la catégorie pro. Et donc, il n'y a jamais eu de génération d'images, de choses comme ça du côté d'Anthropic, même en termes de design et tout. Vraiment, c'est des identités très différentes. Et OpenAI, eux, ils sont partis dans des choses beaucoup plus grand public, de la génération d'images, de la génération de vidéos, la tentation à un moment aussi de proposer une expérience de shopping, ils vont rajouter aussi des pubs, enfin voilà, plein de choses comme ça, où on a vraiment le sentiment de se dire, enfin c'était un pari, pourquoi pas, ils auraient pu réussir ce pari, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en train de couper tout, ils ont arrêté le truc du shopping, là, le partenariat avec PayPal, là, ils coupent Sora, donc clairement, ils essayent de se recentrer. Et très probablement parce que là, la menace venant d'Anthropic se fait quand même très fortement sentir. Il y a eu le bad buzz du mois dernier où Anthropic a gagné beaucoup d'utilisateurs. Il y a eu toute une petite campagne de gens qui ont quitté OpenAI la suite aux histoires avec le Pentagone. Je ne vais pas revenir là-dessus. Qui, en plus, pour moi, au passage, quand même un peu anecdotique. C'était juste la goutte d'eau. Mais voilà, c'est pas vraiment le sujet. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été très facile de quitter OpenAI parce qu'en fait, je n'utilisais plus vraiment, j'ai dû supprimer mon compte, me dire, bon, voilà, ça, c'est un outil de toute façon qui ne m'intéresse pas. Si j'ai vraiment besoin d'un modèle d'OpenAI, je peux y accéder à travers OpenRouter, par exemple. Donc, vraiment, c'était facile et comme ça, ça m'empêche. Enfin, voilà, c'était plus simple. Mais je pense que, voilà, il n'y a pas non plus, c'est quand même un move qui a été un peu marginal. Mais bon, dans les chiffres, Anthropic a gagné beaucoup de vapeur, et comme eux, ils sont très focus, bah forcément, toute la vapeur qu'ils gagnent les pousse dans une seule direction. Voilà. Alors, ceci étant dit, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi quand même, puisque là, je lisais un petit peu des articles autour de Sora et tout, bon, on va pas comment épiloguer pendant 200 ans sur Sora, et notamment, bon, il y avait le deal avec Disney, machin, bah du coup, ça a mis fin à leur deal, bon, voilà, si ça vous intéresse aussi de lire les articles. Mais par contre, ce que j'ai vu au passage, c'est les derniers chiffres du coup de nombre d'utilisateurs d'OpenAI, c'est fou, 920 millions d'utilisateurs en nombre. Après, quel est le business derrière généré, ça c'est autre chose. Et combien ça leur coûte, c'est aussi encore autre chose. Mais le nombre est phénoménal. Je veux dire, c'est presque combien, une personne sur 8 sur Terre, enfin, un truc comme ça, c'est complètement fou. Donc, c'est... alors, je sais plus si c'est du active user par semaine, par mois, ou le nombre total, enfin, mais 920 millions, c'est gigantesque, quoi. Donc, quand même, il faut pas oublier ça. Pour ceux qui seraient tentés de se dire que OpenAI est en mauvaise posture, non, ils ont en plus beaucoup d'argent en banque. Par contre, ce qui est vrai, c'est que par rapport à Anthropic, dans ce qu'on lit en tout cas, ils sont beaucoup moins rentables. Et du coup, en plus, en s'étant un peu égarés, ils repoussent le moment de la rentabilité. Alors que Anthropic, leur ligne directrice est relativement proche. Il me semble que c'est rentabilité dans 2 ans, un truc comme ça. Alors que OpenAI annonçait 3 ou 4. Mais comme en plus, ils se perdent un peu en chemin, voilà. Alors que Anthropic, c'est assez clair. En plus, ils ne font que gagner. Enfin, leur croissance est très importante. Ils ont des produits aussi, parce qu'au-delà des LLM, ça c'est aussi un autre truc que les analystes disent à très juste titre et que je pense aussi depuis un moment, c'est que les LLM c'est bien, mais ce qui est important c'est plutôt les outils que vous créez par-dessus. Et on le voit bien, d'ailleurs il y a plein d'outils, on utilise tous des outils au quotidien qui ne sont pas des fournisseurs de LLM. Je prends un exemple, peut-être Gamma par exemple que vous utilisez qui permet de générer des slides. Bah, Gamma ne crée pas son propre LLM, ils utilisent le LLM d'un autre. Mais c'est un produit qui est très puissant. Ils peuvent switcher de LLM à tout moment. Si à un moment des LLM moins chers marchent mieux, ils peuvent switcher, ils sont indépendants. Et les gens aiment le produit, donc il y a une très bonne rétention. Voilà. Et donc pour les fournisseurs d'IA, c'est important aussi de ne pas... comme la compétition est très forte au niveau des LLM et qu'on voit qu'il y a une grosse convergence au niveau des performances, de ne pas être dépendant juste de l'argent qu'ils gagnent en vendant l'inférence de leur LLM. Il faut qu'ils aient des produits aussi. C'est ça qui fera rester les gens. Et on le voit bien, là-dessus, Anthropic est sur une très très bonne vibe, sur le côté pro en tout cas, avec le Claude Code monstrueux, enfin voilà, c'est devenu, ça génère énormément d'argent pour Anthropic, et Claude Cowork, qui est d'un point de vue produit et développement pas grand-chose, c'est juste une petite surcouche, mais qui est en train d'emballer les gens, et que moi je pense aussi, même si je l'utilise pas, moi j'utilise Claude Code, mais Claude Cowork, pour moi, je l'ai déjà dit, hein, et je le redirai probablement, représente une vision du futur de la bureautique et du travail sur un ordinateur. Du travail, hein, je ne parle pas de divertissement, etc., mais juste du travail, c'est indéniable. Donc vraiment, Anthropic est vraiment sur une très très bonne lancée. Ils ont et des modèles performants et des usages à travers les API quand même qui leur rapportent de l'argent, parce qu'il y a des gens qui utilisent Claude pour générer du code, mais dans d'autres outils que ceux qu'on utilise, dans Cursor, etc. En plus, ils ont des partenariats avec plein de marques. N'oubliez pas que Claude est utilisé, par exemple, pour faire les formules dans Excel, etc. Enfin, partenariat avec Microsoft. Donc, ils sont très, très bons. Donc, ils ont tout ça, plus les produits, voilà, qui sont... Donc, c'est très impressionnant. Là où OpenAI, bon, ils ont des très bons modèles. Hein, d'après les benchmarks, là, le GPT-5.4 est très bon. Mais on voit qu'ils sont un peu quand même en panique parce qu'ils ont sorti le 5.3. 3 jours plus tard, ils ont sorti le 5.4. Enfin, il y a un truc un peu comme ça de débandade, je trouve. Enfin, débandade, le mot est un peu fort, mais voilà, la ligne directrice est quand même beaucoup moins forte. Et dans le même temps, eh ben, on a des modèles concurrents qui commencent à devenir très bons. Il y a le Kimi 2.5, moi j'arrête pas de vous en parler, mais c'est pas pour faire de la pub, parce que de toute façon, on s'en fout, mais quand on voit que même Cursor a surentraîné un Kimi 2.5 pour faire leur composer, etc. Enfin, il y a tout un truc, il y a quand même une vibe où on voit bien que le LLM, ça y est, les LLM frontières, voilà, il y a une convergence. Je serais bien étonné qu'il y ait un Opus 5 qui sorte bientôt, qui soit vraiment phénoménal. Je pense que là, ça commence à devenir difficile d'aller plus loin. On peut être surpris. Et puis, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Je ne sais pas, hein, très franchement. Par contre, dans les usages, dans les produits qu'il y a autour, bah, voilà, c'est important. Surtout qu'il y a aussi la concurrence d'OpenClaw. Alors, OpenClaw a été... Enfin, en tout cas, le fondateur, le créateur a été acquis par OpenAI. Donc, il y a sûrement là-dessus, il va y avoir un petit rattrapage aussi. Ils vont peut-être être les meilleurs sur les agents autonomes, always on, comme on dit. Donc, voilà, il faut voir. Tout ça, ce n'est pas pour dire que OpenAI est à la rue, mais c'est intéressant. Tous ces signaux, ça part un peu dans tous les sens. Bon, voilà. Ça fait penser un petit peu aussi à Meta. Où, bon, voilà, il y a eu tout. Là, il y a eu récemment, ils ont stoppé Horizon World, qui était leur gros métaverse, alors qui était un peu nul d'un point de vue graphique, mais qui était une vision. Voilà, on a eu l'impression aussi que Meta s'était un peu égaré. Moi, là-dessus, je serais beaucoup moins affirmatif que beaucoup de gens l'ont été, qui se sont moqués de Zuckerberg et de dire que ouais, son métaverse c'était de la merde et que voilà, vous voyez la preuve que c'était de la merde, c'est qu'il l'arrête. Il y aura un retour. Il y aura un retour du métaverse. Ne vous inquiétez pas. Il y a une question de matériel. Et très franchement, je pense qu'on n'est qu'à quelques années de lunettes tout à fait transportables, j'allais dire métables, enfin transportables quoi, qui seront confortables et dans lequel vous aurez un retour du métaverse. Parce que là, actuellement, personne n'a envie de mettre des casques. Ils sont un peu lourds, ils sont un peu chers, même si très franchement, le Quest 3S, là où je ne sais plus c'est quoi le dernier modèle de Meta, est quand même accessible. Et très franchement, il n'est quand même pas si désagréable à porter, je trouve. Mais bon, c'est pas pareil que mettre des lunettes. Donc voilà. Mais quand tu auras le hardware, il y aura un retour. Ça, je peux vous le garantir. Parce que moi, c'est pas que je crois au métaverse, mais je pense que beaucoup de gens ont besoin de s'évader. Un peu, il y a des usages qui sont intéressants. Il y a des usages pro aussi qui sont intéressants hein, dans la réalité, notamment la réalité augmentée et la réalité mixte. Pas que la réalité virtuelle, mais la réalité augmentée, c'est-à-dire d'avoir des informations en mode... un peu comme dans Dragon Ball, le dispositif, là où on voit des choses qui viennent par-dessus. De toute façon, là, c'est en train d'arriver. Hein. Là, les lunettes, Meta, d'ailleurs, ils sont très bons là, sur les lunettes avec Ray-Ban. Franchement, c'est terrifiant. J'ai pas envie d'en avoir. Et vraiment, ça me saoule que les gens en portent avec les caméras et tout. Et que ça me saoule surtout que Meta regarde les vidéos des gens. Enfin, il y a eu tout un scandale là-dessus, vous pourrez vous renseigner. Mais par contre, d'un point de vue hardware, d'un point de vue matériel, ce sont des beaux objets. Et quand voilà, une paire de belles Wayfarer comme ça aura vraiment une réalité mixte, ça sera tentant, hein, on ne va pas se mentir, de pouvoir se balader dans la rue et d'avoir la visualisation de son GPS, par exemple, quand on se balade ou quand on est en voyage à l'étranger, par exemple au Japon, qu'on ne peut rien lire et qu'on peut avoir de la transcription directement sans utiliser le téléphone. Et bien sûr, on pourrait le faire dans le téléphone. Mais là, il y a un truc quand même un peu du turfu qui, moi, j'avoue, m'emballe un peu. Et la réalité virtuelle vient se rajouter, ou la réalité mixte, hein, plutôt la réalité augmentée, vient par-dessus. Donc, il y aura un retour du métaverse. Franchement, moi, je pense que c'était peut-être un peu trop tôt. C'était mal exécuté. Il n'y avait pas le hardware qui allait avec, mais il y aura un retour. Ça, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que je lis beaucoup de science-fiction et que dans la science-fiction, il y a ça. Et Ready Player One arrivera un jour ou l'autre. Ça, je peux vraiment vous le garantir. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Ça, je vous laisse en décider. On pourra en rediscuter le jour venu. Allez, autre petite news que j'ai trouvée intéressante. Notion vient d'ajouter quelque chose qui s'appelle les Custom Skills. Et donc, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, donc en fait, c'est l'idée que vous allez pouvoir... Donc, vous pouvez faire des agents, etc. Maintenant, dans Notion, c'est très bien fait. Mais vous allez pouvoir aussi faire des skills, c'est-à-dire comme des petits bouts de prompt que vous pouvez réutiliser très facilement sans avoir à refaire les prompts. Et donc, c'est vraiment... Alors, c'est très basique de ce que j'ai vu, mais c'est bien fait. Et c'est vraiment une abstraction visuelle des skills qui est maintenant ce petit protocole, ce petit standard. C'est pas vraiment un protocole, mais c'est plutôt ce petit standard qui a été proposé par Anthropic, qui, pour moi, est extrêmement intéressant. Je vous invite, encore une fois, je l'ai dit déjà en plus en mode vocal, allez regarder des vidéos sur YouTube, sur les skills et tout. Parce que ça, autant les MCP, j'avais pas trop cru, autant les skills, vraiment, je le redis, parce que il faut s'y mettre. Il y a des usages très, très intéressants. Et en plus, c'est un standard très portable. Vous pouvez avoir des skills dans Cloud Code, vous pouvez avoir des skills dans Cloud Normal, vous pouvez avoir des skills dans Open Code. Donc, ça vous sert à différents endroits. Et c'est toujours le même principe. Dans Cowork aussi, dans Cowork, en équipe, des skills partagés à toute votre équipe. Là-dedans, il y a un truc, vraiment, je le sens, je le vois bien et je n'ai pas forcément encore le contexte pour expérimenter tant que ça, mais j'en suis convaincu. Donc, voilà, ça, c'est à voir. Donc, vous pouvez aller voir. Et donc, Notion, c'est approprié un petit peu ça, de manière extrêmement simple, mais voilà, une petite abstraction visuelle. Et comme moi, j'aime bien aussi ces sujets un petit peu du X, d'abstraction et tout, vous pouvez aller voir. Alors après, vraiment, ça ne vous aidera pas vraiment à comprendre. Ça vous aidera vraiment à comprendre de très loin ce que sont les skills dans Claude et tout, mais voilà, c'est à noter que puis ce mot est intéressant, quoi. Et enfin, dernière chose que je voudrais vous citer, et après, il va falloir que j'y aille parce que sinon je vais être en retard à mon déjeuner, j'ai lancé l'enregistrement un peu trop tard, c'est un petit outil que j'ai découvert grâce à notre illustre Ben Tossel, dont la newsletter, vraiment, je vous la recommande, hein, Ben's Byte. Et surtout, il partage beaucoup plein de petits outils. Et j'ai trouvé un outil, Keep.md. vraiment que je trouve génial. Ça fait un moment que je cherchais un outil pour sauvegarder des ressources, pour sauvegarder des liens, des choses comme ça. Et là, il y a un truc en fait où c'est complètement dans l'air du temps, en tout cas c'est complètement dans ma vibe actuelle, c'est que c'est un outil très simple et toutes les ressources, tout ce que vous sauvegardez, peut être accédé facilement par des LLM parce que tout est transcrit en Markdown, c'est-à-dire vous mettez un lien, par exemple un article que vous aimez bien dans un blog, hop, il va vous le sauvegarder en Markdown. Et donc ensuite, à travers des CLI, des skills justement, ou un MCP, bah vous pouvez, dans Cloud Code, accéder à vos notes pour, dans Keep. Et donc ça, c'est génial. Pour moi, c'est justement, c'était exactement la brique qui me manquait. Je suis en train de me construire un espèce de petit OS où je pour créer mon contenu, etc., dans Cloud Code, donc tout à partir de fichiers Markdown. Bon, là, c'est un peu abstrait, hein, je vous expliquerai ça mieux un jour. Mais Keep, c'était parfait, c'est parfait. C'est-à-dire que quand je lis, je fais beaucoup de veille, hein, vous en doutez, hop, j'ajoute dans Keep, et puis comme ça, quand je veux aller écrire un article LinkedIn, je peux lui dire, bah vas-y, écoute, va chercher dans Keep des articles que j'aurais lus qui peuvent servir de référence, des choses comme ça. J'avais fait un espèce de système un petit peu similaire, un peu frugal pour l'écriture de mon livre, mais là, je vais avoir un truc un peu unifié pour tous mes projets. Donc voilà, donc c'est vraiment super. Bon, c'est un peu, je peux entendre que c'est un petit peu abstrait, toutes ces histoires de fichiers Markdown, de lignes de commande, de skills et tout. Mais ça, c'est la frontière que actuellement j'étudie et que j'essaierai de vous expliquer parce que c'est un peu geek, mais ça me plaît beaucoup et surtout ça marche très bien avec les LLM. On revient toujours à la même chose. Les LLM sont très bons avec le code, enfin avec le texte, donc avec le code, donc avec le Markdown, donc avec ces choses-là. Donc tout un truc où si vous êtes un peu geek, et c'est pas obligé du tout, vous pouvez très bien aller sur des abstractions un peu plus hautes, type Cowork. Si vous avez envie d'avoir des choses, vous avez un peu de contrôle, si vous aimez bien des trucs genre Obsidian, etc., bah on va pouvoir aller ensemble sur ces choses-là. Mais évidemment, c'est pas pour tout le monde et je vais pas faire que ça, mais c'est des petits trucs, voilà, des petites geekeries, mais qui me plaisent bien, et une espèce de frugalité, un truc très très efficace qui me plaît, quoi. Allez, on en reparle bientôt, je vous dis bonne journée, bonne soirée, suivant le moment où vous écoutez ça, et puis à très bientôt.